Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 57, travail d'écoute et éclosion du style.
Est-ce que vous diriez que pendant ces années de silence, enfin ces années avant le fait de devenir critique, votre rapport à la musique a été de l'ordre du travail?
Inconsciemment, bien entendu, sans aucun dessein préalable, dans la mesure où jamais je n'ai pensé que je ferais professionnellement quelque chose de ce que j'étais en train d'accumuler. Jamais. Et cela est venu, comme je l'ai expliqué, je crois, par une série de hasards purs et simples. Le fait que je sois revenu partiellement à Paris, que j'y ai eu beaucoup de gens qui m'y attendaient et qui m'ouvraient un certain nombre de portes, que ce que je faisais à Strasbourg, qui était extraordinairement modeste et ne dépassait pas le cadre de mon propre salon et de quelques restaurants de Strasbourg et de quelques conférences que je donnais pour le public de Strasbourg, et puis... traverser jusqu'à Paris à partir du moment où des gens sont venus de Paris parce que Lombard était là, voilà, et que Strasbourg devenait une espèce de capitale intéressante pour la France en musique. Mais je n'ai jamais cherché cela. Mais d'autre part, la situation entière de loisir où en vérité je me trouvais à Strasbourg, n'ayant que mon travail, que le temps de mon travail de professeur, le temps de mon travail d'enseignement, le temps de mes heures d'enseignement, dirais-je, qui me prenait entièrement et je n'avais pas à les préparer, ou à peine. De ce temps-là, je voulais faire quelque chose de systématique, je veux dire par là. Je vais prendre un exemple très précis. J'avais la passion du 78 tours, parce que le 78 tours me donnait accès, et lui seul, à des voix qui pour moi étaient des voix légendaires, soit que j'ai déjà entendu un peu du timbre de cette voix sur un disque qui avait été reporté et que j'avais pu trouver dès le début, comme ça a été le cas pour Lotte Lehmann ou pour Elisabeth Schumann, enfin qui sont des gens que j'ai entendus dès que je suis allé pour la première fois au marché Opus et que j'ai eu un 78 tours dans les mains. Mais de fil en aiguille, parce que l'histoire de l'opéra, et même pas l'histoire de l'opéra en tant qu'histoire, comment ça progresse d'une manière savante et comment on passe d'un acquis à un autre, plus que l'histoire de l'opéra, je dirais la mémoire de la voix. La mémoire de la voix, une mémoire possible d'une voix qu'on ne peut que rêver. Et il y a bien entendu du Jules Verne, si l'on veut, là-dessous. Mais cette fascination pour la voix, pour le timbre de la voix, pour l'éloquence propre de la voix, pour ce qu'un timbre de voix apporte, même s'il ne s'agit pas d'une artiste particulièrement intéressante, mais dans l'inflexion, etc. Alors, dans mon oasis, si je peux l'appeler ainsi, dans mon igloo, c'est plutôt igloo qu'oasis, de Strasbourg, je lisais tout ce qui pouvait me tomber sous la main, c'est-à-dire les revues étrangères auxquelles j'étais abonné, Opéra d'Angleterre, Opéra News d'Amérique, le Record Collector auquel je m'étais abonné depuis le début des années 50, les journaux allemands qui me parvenaient par mon disquaire de Strasbourg, l'Allemagne étant vraiment de l'autre côté du Rhin. Et je cherchais à recouper tout cela et essayer de trouver quelque chose de consistant. Il y a quelque chose de systématique dans la recherche, quand la recherche a le dos au mur, qu'on sait que les documents sont en train de s'épuiser, qu'ils vont être cassés par le talon du passant sur le prochain trottoir d'un marché Opus avant qu'on ait eu le temps de les sauver, car il s'agit bien de sauvetage. Et je crois l'avoir raconté, je m'étais mis à Strasbourg, profitant de mes loisirs et de ma passion pour le chant, et dans le chant, pour le timbre même de la voix, et le visage qu'on peut supposer par derrière, la capacité et la spécificité d'expression qui peut aller avec cette voix et avec ce visage. Et j'avais donc tout un circuit d'échanges de 78 tours, dont j'étais en quelque sorte le pivot, et j'envoyais les choses qui étaient désirées là où elles étaient désirées et manquantes, alors qu'elles me provenaient d'endroits où on n'avait rien à faire d'elles. Je veux dire, il y avait des quantités de ténors français qu'on trouvait en quantité, en surabondance, du côté de Biarritz et du côté de Toulouse, où j'avais des correspondants et qui étaient attendus comme le Messie en Écosse ou en Allemagne, où j'en avais d'autres, et vice-versa. Bon. Et c'est comme ça que je faisais aller Militza Corius à Bayonne ou Biarritz, et qu'en échange, j'avais, dans le moins bon des cas, du Léon Bayle, et dans le meilleur des cas, de l'Escalaïs. Bon. Mais ma curiosité passionnée allait aux voix de femmes dans le répertoire plutôt mozartien, ou le Lied. Par extension, Wagner, enfin les Wagner pas exagérément héroïques, ceux qui sont encore des Wagner vocaux, mais enfin, sur les 78 tours, c'est surtout du Wagner vocal qu'on trouvait, effectivement. Et il y a quelque chose de systématique là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites parvenir à vos correspondants une espèce de liste des choses qui vous manquent. Donc, vous aspirez à compléter. Vous aspirez à la totalité. Alors, je sais qu'il y a des collectionneurs qui aspirent à la totalité parce qu'ils ont une mentalité de propriétaire. Mmh. Et de propriétaire, à ce moment-là, ils sont comme Fafner sur ses trésors dans sa caverne. Ils dissimulent jalousement ce qu'ils ont, ne le montrent à personne, etc. Moi, mon sens de la totalité est, oserais-je dire, davantage philosophique, enfin, et désintéressé. Je voudrais simplement que leibnizienne la notion soit complète et qu'à travers les fenêtres qui sont ouvertes, on n'ait laissé échapper aucun élément qui fonctionne comme l'union libre dans l'air ambiant. Qu'on ait tout rassemblé, qu'on ait tout recueilli, collecté et recueilli. Et il y a là, bien entendu, l'image d'un choix, d'un amour, d'une dilection dans la collection, d'une préférence qui va vers la totalité, simplement parce qu'on se dit que même dans une variante d'un air, mettons l'air d'Elsa aux brises, un air qui a été rejeté, qui n'a pas été publié, qui est resté avec l'étiquette blanche des essais, enfin que l'on trouvait parfois aux puces, vous trouverez à un moment donné une inflexion, qui vous en dit plus sur Elsa et sur la sensibilité d'Elsa que toute une interprétation par une chanteuse indifférente. Bon, on a ça ou on ne l'a pas. Moi, j'avais ce goût, et par derrière, comme dans tout ce qui est systématique et totalisant, il y a bien entendu l'idée d'une étude, mais pas d'une étude au sens scolastique du terme. J'ai été collectionneur, Dieu sait, j'ai été collectionneur, et Dieu sait que j'ai ramené des 78 tours, et Dieu sait qu'ensuite, pour le simple plaisir, le vrai plaisir, qui est celui de les faire entendre, ce qui montre en quoi, pour le coup, je suis plutôt pédagogue et communicateur que collectionneur qui garde les choses pour soi. Avec mon copain Grundheber de Munich, voilà, tout allait vers les Preiser, les Lebendige Vergangenheit, dont je peux dire que la moitié de ce qui est vocal vient de la collection qui était chez moi. Mais je n'ai jamais su ce que voulaient vraiment dire les numéros de matrice, sur lesquels les collectionneurs se font entre eux des échanges de correspondances, d'érudits. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et en réalité, je m'en fiche. C'est en quoi je ne suis pas collectionneur, je ne suis pas un collectionneur savant et érudit. Pas plus que les dates ne m'ont jamais intéressé en histoire, sauf quand elles veulent dire quelque chose d'extrêmement précis qui se confond avec la leçon même de l'événement. Bien. Mais De la même manière, quand je me suis mis à écouter autre chose que du chant, pour le plaisir et l'approfondissement de la connaissance et du charme du timbre, quand je me suis mis aux sonates de Schubert pour les écouter et éventuellement pour en faire la première très incomplète, mais déjà très hardie et très ambitieuse, discographie comparée que, sauf erreur, il y a eu en France et peut-être même au monde. Bon, il y avait là quelque chose de systématique. Et il est arrivé que j'ai pu faire pour Harmonie à ce moment-là, si j'ai réussi à le faire pour Harmonie, c'est que pendant les 15 années qui précédaient, je m'y étais préparé d'une manière désintéressée. Simplement pour le plaisir de ne laisser aucune de ces sonates qui passaient à ma portée sans l'avoir entendue et avoir cherché éventuellement en elle un détail d'interprétation, un détail de couleur, une illumination à un moment donné, qui fonctionne un peu comme un équivalent d'une lumière de plus qui viendrait dans le timbre de Lotte Lehmann et pas d'une autre à ce moment de l'air des brises d'Elsa dans Lohengrin. Ce qui suppose bien entendu une capacité d'écoute et de patience dans l'écoute, parce que on n'écoute pas une sonate de Schubert, ni plusieurs sonates de Schubert, ni plusieurs sonates de Schubert éloignées l'une de l'autre dans le temps, au moment où on les écoute, parce qu'on ne fait pas ça l'une après l'autre, comme si on faisait un travail d'empilage systématique. Bien entendu, c'est une étude. C'est une étude où un apprentissage ou une initiation. J'imagine qu'il y a des termes plus mystiques que cela qu'on peut donner à ce genre de travail qui à aucun moment ne se présente comme étant un travail, mais qui certainement, dans une certaine profondeur, se considère lui-même comme une espèce de préalable pieux à quelque chose. Il ne sait pas quoi, on ne sait pas quoi. Mais comme le préalable pieux à la constitution en soi d'une mémoire légitime, d'une mémoire personnelle, et d'une mémoire à laquelle peut correspondre une autorité. Autorité, ce qui est à peu près l'équivalent de ce que je disais tout à l'heure, compétence. Comme nous le savons, compétence et autorité, auctoritas, d'une certaine manière, sont la même chose. C'est-à-dire, à un moment donné, pouvoir répondre à la question « Qui es-tu, toi qui nous parles ainsi ?»« Qui es-tu, toi qui as entendu ainsi ?»« Quelles sont tes preuves ?» Bon, vous m'avez demandé « D'où vient mon style ?» Mon style est ma preuve, tout simplement. Que pendant 15 ans, j'ai écouté sans rien penser à en faire. Et que pendant les mêmes 15 ans, j'ai parlé et je me suis exprimé sans que ce soit sur ce domaine-là. Et que, au terme de ces longues années de patience, eh bien effectivement, soit arrivée cette forme particulière de compétence et d'autorité qui, chez un auteur donné, peut s'appeler son style. C'est ta parole telle qu'elle s'exprime. Avec son ton, son timbre, sa respiration. Et là, tout ce qui est dû à l'écoute de longues phrases, d'une part, et tout ce qui est dû à l'improvisation de ces phrases interminables qu'il y a chez quelqu'un qui improvise, tout cela se met effectivement dans ce style. Alors, attends, on me demande comment se fait-il qu'un rédacteur qui en est à sa première copie n'ait pas un style ? C'est-à-dire, pour lui, avoir un style, c'est ne pas faire de faute visible de français ou de goût éventuellement dans ce qu'il écrit. Moi, qui arrive comme un senior là-dedans, même si je débute ou je déboule dans ce métier, tout ce que j'ai, c'est dans mes mains, une expérience de 25 ans qu'il y a là derrière. Voilà le style.
Ce parcours qui mène effectivement à l'éclosion du style, dans le partage entre la collection et l'esprit du collectionneur et l'esprit du pédagogue, est-ce que vous n'avez jamais été un peu tenté ou guetté simplement par la dispersion ?
Si, bien entendu. j'étais en proie à la dispersion. J'étais en proie à la dispersion, comme toute personne à qui son travail officiel et matériel ne suffit pas au regard de l'énergie qui est la sienne, qui, à l'intérieur du champ qui lui est ouvert, en principe, par le genre de travail qu'il pratique, ne voit rien de plus qu'il puisse faire, est au maximum de sa propre compétence, y ajoute très volontiers une grande quantité d'heures, mais il n'est pas maître de les trouver lui-même, et ne voit aucun rechange dans lequel il puisse pratiquer le même genre de travail. Il faut donc qu'il se trouve à lui-même, bon, des hobbies, des distractions, mais je pense d'une part que je n'ai pas les moyens matériels et techniques de me payer des hobbies, je ne sais rien faire, je ne sais rien faire de mes doigts. Je n'avais pas les moyens matériels de dire ben, « je vais voyager », en plus je n'en ai pas le goût, donc ça, je me trouvais très bien chez moi. Voilà, il fallait que je trouve à faire chez moi quelque chose qui soit compatible avec mon métier, qui d'une certaine manière apporte de l'eau au moulin de mon métier, qui enrichisse ma pensée, qui après tout est la matière première de mon enseignement, il faut bien le dire, et ma pensée, elle est faite de ma mémoire et de ma sensibilité, et de tout ce que j'apprends à connaître chaque jour, dans l'ordre humain, dans l'ordre mondain, et dans tout ce qu'on voudra. Donc je trouve des activités qui ne soient pas des activités rémunérées parce que c'est impossible à un fonctionnaire, ce n'est pas possible. J'étais très content de l'accueillir lorsque des ministres m'ont demandé de le faire pour eux. Et j'ai mis gracieusement, pourrais-je dire, mon temps à leur disposition parce que j'en avais ainsi à donner et à revendre et parce que je savais que c'était compatible avec mon métier principal, qu'en un sens, ça le nourrissait. Mais de là, écouter de la musique en me disant que, comme mes camarades de toujours pouvaient être en train de potasser du Leibniz ou du Husserl ou du, que puis-je dire, de Hölderlin, et qu'on trouvait ça, enfin, l'extension tout à fait normale de leur métier, de leur profession, eh bien moi j'écoutais Schubert. J'écoutais Schubert et Bach, et j'apprenais à voir la différence qu'il y a à la fois entre Schubert et Bach, et disons-le, parce que c'est cela ma praxis, la différence entre l'écoute de Schubert et l'écoute de Bach. Et quand vous prenez le problème par ce côté-là, il ne faut pas s'étonner que vous arriviez à saisir en effet une différence entre la façon dont on écoute Schubert et une façon dont on écoute Bach. Et que de là, vous puissiez, avec quelque hardiesse, quand vous êtes suffisamment sûr de votre mémoire, et je n'ose pas dire de votre jugement, mais enfin en tout cas d'une façon habituelle qu'a votre sensibilité de fonctionner, vous passiez de là à l'idée qu'il y a effectivement quelque chose de différent dans Schubert lui-même et Bach lui-même, et que vous commencez à savoir vous le représenter et l'exprimer. C'est tout cela. C'est le passage à une véritable praxis, je le répète, qui est celle de l'écoute, et qui ne peut venir que par l'écoute solitaire et répétée, d'une manière d'écouter, et d'une humilité, et d'une absence de soi, dans une façon d'écouter Schubert ou Bach, en ne rajoutant rien de soi-même à ce qu'on est en train d'écouter. Et notamment aucun préjugé en ce qui concerne l'interprète que vous êtes en train d'écouter. Écoutez donc d'une façon à la fois ouverte et recueillie, mais surtout recueillante. Vous vous donniez en effet à vous-même l'autorité et la compétence de vous dire « voilà ce qui m'arrive pendant cette écoute ». Bon, et qu'à ce moment-là, vous soyez en avance de 20 ans de praxis sur quelqu'un qui a commencé à écouter il y a simplement 6 mois, ça n'a rien d'étonnant. Et que ça se marque dans ce que vous écrivez, par la netteté du trait, ou par le fait que vous trouvez vos adjectifs quand vous les cherchez, alors qu'il y en a qui ne les cherchent même pas, et qui ne savent même pas qu'il y a des adjectifs qualificatifs. et qu'il y a des énumérations de substantifs qui peuvent tenir lieu d'adjectifs qualificatifs quand on n'a pas trouvé le vrai adjectif qualificatif. Et qu'on peut et qu'on doit ouvrir une parenthèse là où on ne veut pas mettre une note en bas de la page ou un renvoi en bout de revue pour ne pas faire savant. Ben, tout ça, moi je le savais et d'autres ne le savent pas. Et c'est ça qui fait qu'un style est différent d'un autre.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.